Bon dimanche à tous. Vous allez bien?
Oui.
Merci Seigneur. Moi aussi je vais bien. Un soleil magnifique. Et bon, je pense qu'on va bientôt pouvoir profiter de la piscine. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane?
Hein? Voilà,
il faut
la remettre aux normes au niveau du pH.
Voilà, on va régler tout ça. Je vois qu'il y a de la fumée. C'est les brochettes qui se préparent. Ah, on est bien là au sud-ouest, c'est super. Quand je lis l'Ancien Testament, il y a des choses qui me laissent pensif. Prenez Moïse qui conduit le peuple d'Israël avec de multiples miracles, des interventions de Dieu. Vous voyez Josué qui conduit aussi Israël et toutes les histoires qui arrivent avec le peuple. Des interventions divines fantastiques, remarquables. Mais le peuple qu'ils conduisent jusqu'en terre promise sont souvent réprimandés parce qu'ils adoptent les pratiques des peuples qu'ils rencontrent ou, quand ils sont arrivés en terre promise, ils ont pris les pratiques des peuples qui étaient là, c'est-à-dire des pratiques païennes. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Juges, chapitre 2, verset 11. Juges, chapitre 2, verset 11. Les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals, les faux dieux. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et se mirent à suivre d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, se prosternèrent devant eux, et ils contrarièrent le Seigneur Yahvé. Ils abandonnèrent le Seigneur Yahvé, se mirent à servir les Baals, et les Astarté, le Seigneur se mit en colère contre Israël et les livra à des pillards qui les pillèrent. Il les vendit aux ennemis qui les entouraient et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit, comme le Seigneur leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Le Seigneur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient, mais même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas, ils se prostituèrent avec d'autres dieux, se prosternaient devant eux, et se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père, qui écoutait les commandements du Seigneur, ils n'agirent pas ainsi. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours du juge, car le Seigneur avait du regret à cause de leurs soupirs devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir plus que leur père, en se mettant à suivre d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils ne laissaient rien de leurs agissements et de leur obstination. Amen. Le peuple. Ça me demandait si la démocratie est une bonne chose. Malgré sa colère, Dieu fait preuve de compassion en suscitant des juges qui, quand ils étaient écoutés, apportaient la bénédiction au peuple. Le Seigneur était avec les juges et il les délivrait de la main de leurs ennemis. Mais quand le juge mourait, le peuple recommençait à se pervertir. Ça me laisse pensif tout ça. Ça me laisse pensif. Le plus grand des juges est sans doute Samuel. Il a été appelé par Dieu quand il n'était qu'un enfant. Vous vous rappelez, il était sur sa couche et Dieu l'appelle et puis il croit que c'est le prophète qui l'appelle. Donc, vous connaissez cette histoire. Et tout Israël le reconnaissait comme étant prophète de l'Éternel. Je vais vous lire ça dans 1 Samuel 3, 19, où il est dit: Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Ainsi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, sûr que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur, le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Alors c'est ainsi que le peuple d'Israël est revenu dans les bonnes grâces de Dieu, au travers de Samuel, cet homme de Dieu, parce que le peuple s'est retrouvé sous l'autorité d'un prophète dirigeant. C'était une théocratie, ce n'était pas une démocratie, c'était une théocratie avec un serviteur de Dieu, un prophète. Ce que la Nouvelle Alliance appelle un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Alors voilà l'impact extraordinaire que provoque le retour à un prophète dirigeant. On va lire un exemple dans 1 Samuel 7, 10. Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. Ce jour-là, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit sur les Philistins et les frappa de panique, et ils furent battus par Israël. Voilà comment ça se passait quand Israël marchait, quand le peuple de Dieu marchait avec le prophète. Que nous apprennent ces textes sacrés? Eh bien, que tant qu'Israël écoutait les conseils de Dieu, donnés par l'intermédiaire de ses porte-paroles, c'est-à-dire de ses prophètes, la bénédiction, le triomphe et la prospérité suivaient. Mais le peuple se lassait très rapidement, très vite, du rôle de juge, et même de Samuel qui était si extraordinaire. Ils se sont lassés, ils ont considéré qu'il était dépassé, voilà, en retard sur son temps. Ils vont même jusqu'à lui dire, on trouve ça dans 1 Samuel 8,5, « T'es vieux ». Ça veut dire « tu comprends plus rien, t'es plus dans le coup, t'es vieux ». Et l'idée même d'avoir un juge, pour eux, ça leur apparaissait comme une vieille idée, dépassée, même si Samuel était prophète et l'avait prouvé à de nombreuses reprises. Bon, en gros, ils lui disent de rejeter l'idée même de cette religion, et puis d'adopter une voie plus moderne, la voie des nations qui sont tout autour, toutes les nations, elles ont un roi. Alors on va lire ça dans 1 Samuel 8, 5, et voilà ce qui est dit. Ils lui dirent, toi tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme en ont toutes les nations. Samuel fut mécontent de les entendre dire, donne-nous un roi pour qu'il soit notre juge. Alors Samuel pria le Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute le peuple et tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Ils ne veulent plus que je sois roi sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Maintenant, donc, écoute-le. Mais avertis-les et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Dieu est bon. Ça me laisse pensif ce que je vous disais au début de mon message. Le peuple implore Samuel, établit sur nous un roi pour nous juger comme il y en a dans toutes les nations, faire comme les autres. À quoi ça vous fait penser tout ça? À moi, ça me fait penser que le peuple de Dieu doit faire attention à ce qu'il demande parce qu'il pourrait bien l'obtenir. Samuel prie au sujet de cette demande et Dieu lui dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux, au verset 7. Et il ajoute, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Verset 8. Et croyez-vous que dans l'église de Jésus-Christ, c'est pas différent? C'est pareil. C'est pareil. Et Dieu, toujours juste, dit à Samuel, écoute-les, mais mets-les en garde contre ce que peuvent faire des rois injustes. Et Samuel avertit le peuple. Alors, on va lire ça dans 1 Samuel 8, 10. Voilà ce qu'il dit. Samuel dit toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les affectera à ses chars et à ses attelages. Ils iront devant son char comme garde du corps. Il les nommera chef de mille ou de chef de 50. Il leur fera labourer ses terres, récolter sa moisson, fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos fils comme vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra le meilleur de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et il le donnera aux gens de sa cour. Il prendra la dîme de vos semailles, de vos vendanges, et il la donnera à ses hauts fonctionnaires et aux gens de sa cour. Il prendra les meilleurs de vos serviteurs et de vos servantes, de vos jeunes gens et de vos ânes, de tout quoi. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail, ainsi vous deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre le roi que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Tant pis, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous serons ainsi comme toutes les nations. Et puis c'est toujours comme ça. Où est-ce que vous voyez une théocratie? Même en Israël, il n'y a pas de théocratie. Samuel avertit le peuple, et ce qu'il lui dit, ça fait beaucoup penser à ce que nous voyons dans ce monde. Nous sommes dans les nations, nous avons des rois ou des présidents, et qu'est-ce qu'ils font? Exactement ce que Dieu a dit qu'ils feraient. Et il dit, vous crierez contre le roi, nye, 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 entre la République et la Bastille, vous crierez contre le roi, que vous vous serez choisi, mais ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Point final, je m'occupe plus de vous, je vous laisse tomber. Voilà, c'est ça que Dieu est en train de dire. En nos jours, le Seigneur de tous n'est plus là pour gouverner les nations. Toujours un frère m'a dit qu'il a entendu dans une église quelqu'un qui priait pour que le pape se convertisse. Quelle imbécilité! Comment voulez-vous que cet homme se convertisse alors que la Bible dit que c'est l'Antichrist? Ta, ta, yo, yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Le Seigneur de tous n'est plus là pour gouverner les nations. Il n'est plus là dans les nations pour livrer bataille pour ceux qui seraient encore un peu justes. Il nous laisse se débrouiller. Les conséquences sont douloureuses quand c'est trop tard pour les éviter. Et le peuple finit par crier, « Nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander un roi. » 1 Samuel 12, 19. Vous voyez, il n'a pas fallu longtemps, hein, pour qu'ils s'en rendent compte. Mais c'était trop tard. À nous, disciples de Jésus-Christ, il a été commandé de ne pas être comme les autres. De ne pas marcher dans les voies inférieures. Ces voies sont dominées par les modes du monde de ténèbres dans leur comportement et leurs croyances. L'Église doit être une théocratie. Il y a des serviteurs de Dieu, porte-parole, qui doivent être écoutés. Alors nous avons été appelés à nous séparer de la méchanceté. Nous avons été appelés à ne pas nous laisser niveler spirituellement par ce monde. Quand les gens se moquent de nous parce que nous ne fonctionnons pas comme eux, qu'est-ce que nous leur répondons ? Que nous savons que nous ne sommes pas comme eux et que nous ne voulons pas être comme eux. Nous voulons être comme le Seigneur nous dit d'être dans sa parole, dans la Bible. Un prophète aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte la parole, qui apporte la parole sans en laisser tomber une par terre. Nous ne laissons pas tomber une parole par terre. Quand nous trouvons quelque chose dans la parole, nous la mettons en pratique. C'est ça une théocratie. Jésus est notre Dieu. Nous voulons son approbation à lui. Nous ne voulons pas votre approbation. Nous, on s'en fout de votre approbation. Amen.
Amen.
Amen. C'est Jésus notre Dieu. C'est Jésus notre juge. C'est Jésus notre roi. Et nous voulons qu'il règne sur nous. Il nous a dit de rechercher les choses qui sont en haut. Et bien que nous vivions dans ce monde désorienté, querelleur et agité, grâce à la direction de Dieu, par sa parole écrite et par son Saint-Esprit, qui nous inspire pour comprendre sa parole écrite, nous n'avons pas à vivre sans Dieu dans ce monde. Mes frères et sœurs, notre vie et notre passé nous confèrent une vision du monde que très peu de gens possèdent. Il faut savoir, et nous le savons parce que nous avons écouté le prophète majeur de notre temps, que le quatrième être vivant nous dirige aujourd'hui. C'est l'aigle, un être vivant à tête d'aigle. Et le prophète l'a identifié à l'esprit de prophétie. Il y a eu quatre temps, quatre êtres vivants qui ont conduit l'Église là où elle est en ce moment, la vraie Église là où elle est en ce moment. Et l'esprit de prophétie, l'aigle qui est en haut et qui voit tout globalement, nous guide et nous guidera à travers les dangers, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient physiques, dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans l'obscurité. Nous, l'esprit de l'aigle nous élève. Chaque fois que vous écouterez les conseils de l'esprit de prophétie, vous constaterez que vous serez en sécurité. Il vous met en sécurité. Le quatrième être vivant qui tient son rôle dans le quatrième sceau d'Apocalypse 6, 7, 8, c'est pas difficile à se rappeler, Apocalypse 6, versets 7 et 8, il n'a pas d'autre préoccupation que de conduire les enfants de Dieu à Jésus-Christ qui nous sauvera finalement en nous enlevant. On va lire qu'est-ce que cet être vivant fait. Apocalypse 6, 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, ça c'est la partie de notre histoire, c'est la partie de l'histoire de notre époque. Vous y croyez pas ? Je m'en fous. Moi je ne laisse pas tomber les paroles de Dieu. Je crois ce qui est dit là. J'ai cherché, j'ai compris. J'ai écouté le prophète majeur et j'ai compris ce qu'il a dit. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant. Et ce quatrième être vivant, c'est un être vivant à tête d'aigle. Avant, il y avait eu un être vivant à tête d'homme. Avant, il y avait eu un être vivant à tête de bœuf. Et avant, il y avait eu un être vivant à tête de... Dominique, rappelle-moi, je ne me rappelle plus. Pardon. D'agneau, non, je ne sais plus. Ce sont les quatre êtres vivants qui ont conduit, qui ont dirigé l'Église. Le lion, pardon. Le premier être vivant, c'est le lion. Vous trouvez ça dans Apocalypse 4, 7. Le premier être vivant ressemble à un lion. Le deuxième être vivant ressemble à un taurillon, un bœuf. Le troisième être vivant a comme un visage humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle en plein vol. Le premier être vivant, c'était dans le premier temps de l'Église, il ressemblait à un lion parce qu'il ressemblait à Jésus, le lion de Juda. Parce que l'Église primitive était correcte sur les paroles de Jésus. Le deuxième être vivant ressemblait à un taurillon, à un bœuf, c'est-à-dire un animal dont on se sert. C'était l'époque où l'Église était vraiment persécutée par Rome et compagnie. Et puis ensuite, c'était un animal qui de trait, si vous voulez. Et ensuite, c'était le troisième animal, c'était avec un visage humain, parce que c'était l'intelligence humaine au secours des choses de la foi, au travers de Luther, le réformateur, qui a réformé les choses, qui a montré le chemin de la vérité. La Bible, pas les croyances de... Et le quatrième être vivant, c'est l'être vivant qui est à notre époque. Après, il n'y a plus d'être vivant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus l'Église. Pourquoi il n'y a plus l'Église ? Parce qu'elle était enlevée. Regardez le cinquième saut, plus d'être vivant. Regardez le sixième, plus d'être vivant. Regardez le septième, plus d'être vivant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus l'Église. Quand il y a un être vivant sur Terre, un de ces quatre-là, c'est parce que cet être vivant est au secours de l'Église. Dans un moment bien particulier. Et aujourd'hui, l'être vivant, l'aigle, est là pour nous parler, pour être l'esprit de prophétie, pour nous éclairer, pour nous faire venir à l'esprit la pensée des choses de la parole de Dieu. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième maître vivant dire « Viens !» Alors, il est venu, il est allé, il est monté, et il a vu. Alors, je vis un cheval verdâtre, celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine, les pestes et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà ce qui se passe sur cette terre à l'heure actuelle. La mort, le séjour des morts parcourt la terre. Mais nous sommes sous la protection de Dieu, avec l'être vivant à tête d'aigle qui nous avertit des dangers et nous sauve des dangers. Tous les gens du peuple de Dieu qui diffèrent leur obéissance au conseil prophétique ou les rejettent, mettent leur vie en danger. Nous sommes sous le quatrième sceau, le dernier sceau. Nous disons tous « Jésus revient bientôt ». Si c'est pas maintenant que ce sceau est ouvert, alors je comprends plus rien à rien et je retourne faire mon métier d'ensemblier décorateur. Quand est-ce que le peuple de Noé aurait dû commencer à se repentir? Avant que le prophète de justice n'ait fini de parler, avant qu'il commence à planter le premier clou pour construire l'arche. Voilà quand le peuple aurait dû se repentir. Noé était un prédicateur de justice, mais ils n'ont pas écouté. Résultat, destruction. Oh, Dieu d'amour. Oui, Dieu d'amour. Vous ne l'aimez pas? Vous ne vous mettez pas de son côté? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas lui qui choisit, c'est vous. Alors oui, les prophètes d'aujourd'hui parlent, et les imitateurs parlent aussi, parce qu'il y a toujours des imitateurs. Des gens qui viennent et qui vous disent « Ainsi dit le Seigneur, tu vas te marier avec un tel, tu vas voyager. » Qu'est-ce que c'est que ces prophéties à la noix de coco? Ah, les gens aiment ça. Aujourd'hui, quelque chose de formidable va t'arriver. Qu'est-ce que c'est que c'est? On voit ça sur Facebook, c'est envoyé à des milliers de personnes, et on tombe dessus, aujourd'hui l'Éternel va t'envoyer un miracle extraordinaire. Je voudrais bien savoir tous ceux qui l'ont lu, si vraiment ils ont reçu un miracle extraordinaire ce jour-là. Faux prophètes, rigolo. Alors oui, les prophètes d'aujourd'hui parlent, mais les imitateurs parlent aussi. Et c'est à vous de faire la différence entre le vrai et le faux. À vous. C'est pas moi de vous dire qui est vrai, qui est faux. C'est vous qui devez savoir. C'est vous qui devez être inspiré par l'esprit de cet aigle, de l'esprit de prophétie. C'est vous qui devez être inspiré pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Un vrai prophète, c'est-à-dire un vrai porteur de la parole de Dieu, il voit le danger qui arrive et il voit aussi les grandes possibilités et les grandes bénédictions qui attendent les personnes qui écoutent avec l'intention d'obéir. Si vous écoutez sans cette intention-là, autant aller vous coucher. Un vrai porte-parole de Dieu est une sentinelle sur la terre, comme c'est écrit dans 2 Rois 9, 17. Il appelle le peuple de Dieu à laisser Dieu prévaloir. Dieu premier servi, et ensuite l'Église en deuxième position. Il va rassembler le peuple de Dieu. Autour de la parole de Dieu. Il radote pas. Il va pas se tromper dans ses calculs et dans ses investigations au sujet de la date du retour de Jésus, vous m'avez compris là? Il radote pas au sujet d'une prétendue réincarnation anti-biblique. Ou alors de la présence de palmiers dans les environs de Jéricho. Les palmiers sont le signe de l'orgueil. Si vous en avez chez vous, c'est pas bien. J'ai entendu ça. Ça, c'est des prophètes, ça. Mais c'est même pas des clowns, ils font rire personne. Un vrai prophète, il parle selon la parole de Dieu, parce qu'il est comme Samuel, qui dès son jeune âge disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Amen. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs écoutent avec l'intention d'obéir au nom de Jésus. Amen. Au revoir.